Ce matin, je voulais parler de la paix. Et je voulais que nous puissions, peut-être ceux qui connaissent la paix en Jésus-Christ, peut-être juste que ce soit un rafraîchissement pour eux. Et ceux qui ne connaissent pas la paix en Jésus-Christ, ça soit peut-être un moment d'être interpellé, de réfléchir et peut-être de prendre une décision ce matin par rapport à Jésus-Christ qui est le prince de la paix. Prions. Nous voulons, Seigneur, te remettre ce petit partage en tes mains et prépare nos cœurs plus que toute autre chose, pour que nos cœurs puissent reconnaître et recevoir ta parole et vivre d'elle. Seigneur, s'il y a une véritable révolution qui doit se produire dans notre vie, qu'elle ne soit pas une révolution intellectuelle, que ce soit une révolution du cœur à l'intérieur de nous. Et seul le Saint-Esprit peut le faire. Agis au milieu de nous au nom de Jésus. Amen. La paix. Voilà un mot que nous prononçons souvent et que nous prononçons déjà parfois très jeune. Par exemple, pour dire « laisse-moi tranquille », on dit « fiche-moi la paix hein? ». La paix du cœur, la paix intérieure, faire la paix, s'entendre, faire la paix. La paix est quelque chose que non seulement nous souhaitons pour nous-mêmes avoir la paix dans son cœur, être en quelque sorte tranquille, mais c'est quelque chose que nous souhaitons aussi vivre autour de nous, en couple. C'est merveilleux, n'est-ce pas, d'avoir un couple qui est en paix. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, les couples, hein, pas les autres, là, je ne sais pas, mais ceux qui sont en couple, vous êtes d'accord que il n'y a rien de bien que d'être en paix avec son conjoint. La paix entre amis, rien n'est mieux que quand l'ambiance se rien n'est pire que quand l'ambiance se détériore entre amis, quand on ne sait plus si on est vraiment des amis ou on est devenu des ennemis. Mais lorsque tout va bien entre amis, je peux prendre mon téléphone, parler à l'autre en sachant que tout va bien entre nous. On est tranquille, c'est la paix. La paix au travail, denrée rare de plus en plus. Parce qu'il y a toujours des compétitions, des concurrences, des rapports de force. Et combien vous avez un boulot où vous avez la paix, où vous êtes en paix avec votre patron, avec vos collègues, c'est merveilleux. La paix à l'école, puisque les jeunes aussi sont concernés, n'est-ce pas ? À l'école, aujourd'hui, la paix, c'est quelque chose aussi de pas évident, puisque à l'école, c'est les raquettes, c'est toutes sortes de violences dans les propos, mais dans les actes aussi, un rapport difficile. Et puis, je ne sais pas si ça se passe comme ça en Madagascar, mais ici, de plus en plus, les enfants, ils n'aiment plus beaucoup étudier. Ah, je me trompe peut-être. Contredisez-moi, les enfants. Et alors, le problème, c'est que les profs doivent insister pour leur apprendre. Et les jeunes font quoi? De la résistance. Ils veulent pas. Conséquence, il y a une... pas la paix. C'est la... Alors, les profs, ils partent les pieds dans le plomb parce que, zut, encore cet élève-là, encore celle-là, aïe, 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 aïe. Et puis, les élèves, oh, ce prof-là, encore lui. Un jour, je me suis surpris à entendre une élève dire, tu as cours maintenant avec, tu as cours maintenant? Oui, oui, j'ai Boula maintenant. Boula, c'est moi. On a Boula, donc c'est cours là, c'est Boula. Enfin bon, bref. La paix est quelque chose, une denrée rare. C'est quelque chose de difficile. Vous savez, la paix, c'est quelque chose que les nations aussi recherchent. Et pourquoi? Parce que la paix instaure la sécurité, la paix instaure la tranquillité, la paix permet au cœur d'être au repos. Mais vous êtes d'accord avec moi que si nous souhaitons tous la paix, si nous aspirons tous à la paix, vous êtes d'accord avec moi pour dire que malheureusement, la paix est souvent fragile, si pas souvent absente dans beaucoup de choses. Dans nos cœurs, nos cœurs sont souvent remplis d'angoisse, de peur, de haine, de violence, de toutes sortes de pensées, de culpabilités. Il n'y a pas la paix toujours dans nos cœurs. Entre les gens, les couples, l'Europe, maintenant aussi de plus en plus ailleurs, puisqu'il n'y a plus que l'Europe maintenant, le record des divorces, les disputes familiales entre papa et maman, dans les familles, les difficultés entre frères et sœurs, les disputes, toutes sortes de difficultés. Entre amis, des disputes, des bagarres, des séparations. À l'intérieur des pays, des guerres civiles, des tensions, des crises politiques, des situations d'instabilité, d'insécurité. Et dans le monde, dans le rapport entre les nations, des guerres, avec tout son lot multiple de dégâts collatéraux qu'on va dire. C'est ce qu'on dit en politique, n'est-ce pas? Mais les dégâts collatéraux, ça détruit tout le monde. Peu importe. La paix dans nos vies est un peu comme un oasis qu'on trouve dans le désert. Vous savez, quand on trouve un oasis dans le désert, parfois, on voit un oasis, mais c'est un mirage. Parfois aussi, on tombe vraiment véritablement sur l'oasis. Et quand on tombe sur l'oasis, c'est malheureusement pour un temps, parce que nous sommes dans le désert et qu'on est en chemin. On s'arrête un moment, on se repose, et puis après, il va falloir à nouveau affronter le désert. Et il faut encore à nouveau foncer dans le désert et recommencer encore. Comme si la paix était un temps de trêve, juste un temps éphémère. Alors, évidemment, je ne suis pas là pour vous tracer tous ces décors que vous connaissez. Je suis là juste pour dire que, et alors, si la paix est tout cela, qu'est-ce que la Bible dit sur la paix? Quelle est la parole de Dieu sur la paix? La Bible parle beaucoup de la paix. Dieu lui-même est un Dieu qui se présente comme un Dieu de paix. C'est un Dieu qui veut la paix pour les humains, pour tous les hommes. Il veut la paix avec les hommes. Il veut la paix entre les hommes. Et la Bible a aussi une explication sur le caractère éphémère, fragile de la paix. Pourquoi la paix est si difficile à trouver et à instaurer? Pourquoi? La Bible a une réponse. La réponse de l'homme, de Dieu, pardon, de la Bible, c'est que c'est à cause du péché. L'homme est incapable de vivre en paix avec lui-même, avec les autres, avec Dieu, à cause du péché. Alors, évidemment, pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est quoi le péché? Voilà encore un terme barbare. Avant-hier, j'avais un de mes collègues qui est professeur de morale qui m'a dit, mais écoute, je trouve quand même que tant que c'est l'apôtre Jean qui écrit, c'est quand même beau. L'évangile, c'est quand même bien, c'est magnifique. C'est pas violent, c'est doux, c'est agréable. Mais quand c'est Paul, l'apôtre Paul, mais qu'est-ce qu'il est violent cet homme? Qu'est-ce qu'il écrit des choses terribles? Il parle du sang, il parle des gens qui meurent, il parle du péché. Ça, c'est horrible le péché. Enfin, c'est ce que mon collègue prof disait. Pourquoi? Parce que le péché est quelque chose d'incompréhensible pour les gens d'aujourd'hui. Les gens d'aujourd'hui croient que le péché est une fantaisie que l'Église catholique a inventée pour culpabiliser les gens. Faux! C'est pas l'Église catholique qui a inventé la notion du péché. La notion du péché est une notion qui est biblique, qui est dans la Bible. Le péché, c'est le choix de vivre indépendamment de la volonté de Dieu. C'est une attitude qui est caractérisée par une prise volontaire d'indépendance vis-à-vis de Dieu. On choisit de vivre une vie pas comme Dieu le veut, mais comme moi je veux. Pas comme Dieu me demande de faire, mais comme moi j'ai envie de faire. Cette attitude est considérée dans la Bible comme une rébellion à la souveraineté de Dieu. Cette attitude est considérée comme un refus d'obéir à Dieu, un rejet de Dieu. Dieu n'est pas, mes amis, ceux qui le savent, mais ceux qui ne le savent pas, j'aimerais leur dire, Dieu n'est pas une idée que l'on s'en fait. Dieu, ce n'est pas une idée que nous nous sommes inventés. Certes, il est vrai, la religion, c'est quelque chose que l'homme a mis en place à travers des pratiques, à travers des rites, au travers des cérémonies. Oui, c'est vrai. Mais Dieu, ce n'est pas de cet ordre-là. Dieu n'a pas été inventé par l'homme. Dieu n'est pas l'idée que nous nous faisons de Dieu. Dieu n'est pas une chose qu'on a inventée. Ce n'est pas un principe philosophique. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui est vivant. Et son existence est réelle. Elle ne dépend pas de notre volonté. Dieu existe que nous le voulions ou non. Il existe. Que nous soyons contents ou pas, Dieu existe. On peut tout juste zapper sa présence. On peut tout juste dire, ok, toi, j'éteins. Il n'y a plus rien là-bas. Alors on est athée, il n'y a pas Dieu. Mais, comme disait Ralph Chalice, il faut beaucoup de foi pour être un athée. Dieu, le Dieu de la Bible, est vivant, il existe. C'est lui qui s'est fait connaître. C'est pour ça qu'on dit que le christianisme est une religion révélée. C'est-à-dire que Dieu a lui-même mis en place les moyens pour se faire connaître à nous. Dieu s'est révélé. Il s'est fait connaître aux hommes à travers sa parole. Mes amis, la Bible et toute l'histoire de sa rédaction est l'aboutissement du projet de Dieu de se faire connaître aux humains. Ce n'est pas par hasard que quand vous ouvrez votre Bible, oui, il y a des gens qui trouvent des contradictions dans la Bible. Ils ont sûrement et certainement raison. Mais des contradictions, il y en a aussi dans des codes de loi. Des contradictions, il y en a aussi dans nos propres principes de vie. Il suffit que nous regardions à la signification de ces contradictions et on peut lever beaucoup de malentendus. La Bible dans son ensemble, ce n'est pas le produit du hasard. Le message dans son ensemble, ce n'est pas le produit du hasard. Il y a une quarantaine d'auteurs qui ont écrit des différents livres. Mais comment ces gens ont-ils écrit des choses qui se rencontrent tellement, qui se croisent tellement, qui révèlent dans leur ensemble une pensée unique d'un Dieu? La Bible, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Et Dieu l'a donné pour se faire connaître aux hommes, mais aussi pour révéler à l'homme qui est ce qu'il est. Qui est l'homme? Qui est Dieu, mais qui est l'homme? Et l'homme est un pécheur, d'après la Bible. L'homme est un pécheur, celui qui a rejeté Dieu. Il a rejeté un Dieu qui s'est fait connaître à lui. Il a refusé de lui obéir et de marcher dans la ligne que Dieu a tracée. Dieu n'est pas simplement une idée, comme je dis, mais Dieu est plus que cela. La Bible révèle que Dieu est le Créateur. Les hommes, l'humanité, est le fruit de l'œuvre de Dieu. Et bien sûr, nous sommes dans une génération qui rejette l'idée de la création de Dieu. Nous sommes dans un monde qui veut admettre uniquement le fait que nous sommes les produits du hasard. Mais la Bible donne tellement d'arguments à la faveur du fait que Dieu est le Créateur. Dieu est le Seigneur des humains. Il est souverain. Et voyez-vous, l'attitude de l'homme qui rejette Dieu, qui rejette le Créateur, celui qui connaît ce pourquoi nous avons été créés, qui sait nous donner la recette de la bonne façon de vivre pour nous, Le fait de rejeter ce guide, c'est un peu comme cet enfant qui dit à ses parents, moi, j'en ai rien à cirer de votre façon de voir la vie, de votre façon de vivre, moi, je vais vivre ma vie. Qu'est-ce qui va se passer pour cet être inexpérimenté dans la vie? Il va faire des erreurs. Peut-être même des plus graves erreurs qu'il aurait pu s'éviter s'il était toujours dirigé, s'il était toujours sous la conduite de ses parents. L'être humain, en choisissant de vivre sa vie d'une manière indépendante, a engendré dans son existence la violence. C'est très amusant, je l'ai toujours dit souvent, quand on regarde l'histoire biblique, on voit au chapitre 1 du livre de Genèse, c'est la création, chapitre 2, c'est le mariage, chapitre 3, qu'est-ce qui commence? Le péché. Après le péché, qu'est-ce qui commence? Les conséquences du péché. Chapitre 4, c'est Caïn qui tue Abel. Chapitre 5, c'est l'ancêtre, le descendant de Caïn qui va lui se venger et établir le principe de la vengeance. Chapitre 6, c'est la corruption morale sur toute la terre, au point que, chapitre 7, 8, 9, Dieu décide de détruire la terre. Et vous croyez que l'aventure est terminée? Non! Chapitre 11, tour de Babel, l'idolâtrie. Ça, c'est quand l'homme prend les choses en main, quand c'est l'homme qui dirige sa propre vie. Il n'y a que des dégâts à cause de la méchanceté qui existe au plus profond de nous. Et on ne peut pas le nier. On ne peut pas nier que l'homme est un être capable de bien, mais capable de mal, de pire. Et malheureusement, jamais la méchanceté ne peut donner la paix. Ésaïe, un texte de la Bible, le prophète Ésaïe, le dit au chapitre 57. Je vais lire les deux versets. Vous avez vu ça? Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Jamais. La paix est inexistante. Regardez aussi l'autre illusion des hommes. C'est le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie dit, « Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, il n'y a pas de paix. » Les hommes essayent de faire la paix, essayent de trouver la paix. Mais toutes les entreprises pour construire la paix et trouver la paix sont vouées à l'échec. Regardez notre monde. Vous savez comment s'appelle le juge qui doit régler les problèmes en rapport avec les difficultés conjugales en première étape? On l'appelle comment? Le juge de paix. Est-ce qu'il réussit toujours à faire la paix dans le couple? 2 couples sur 3 divorcent. L'ONU. Quelle est la vocation de l'ONU? Ce n'est-ce pas de faire la paix dans le monde, entre les États? Est-ce que vous avez déjà lu les rapports qu'on dit à propos des missions de l'ONU, du bilan de travail de l'ONU? Aujourd'hui, les foyers de tension, les foyers de guerre entre les États se sont multipliés. Paix, paix, mais il n'y a pas de paix. Comment donc sortir de l'impasse? Comment vous trouver le chemin de la paix? C'est quoi la vraie paix? La Bible nous présente aussi un chemin, et je vous invite vraiment à le considérer, à le suivre. Pour trouver la paix, il faut regarder à Jésus-Christ et à son œuvre. Dans la Bible, Jésus est présenté comme le prince de paix, celui qui donne la paix. Jean chapitre 14, verset 27, Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Et regardez, « Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et ma paix, elle est différente de celle que l'on reçoit dans notre monde. La paix de notre monde, je vous l'ai décrit, est éphémère. La paix de Jésus-Christ est éternel. L'apôtre Paul va même plus loin encore. Pour trouver la paix, l'apôtre Paul montre le chemin, montre comment les choses se sont faites. Éphésiens chapitre 2, je vais lire du verset 14 au verset 17. Écoutez, c'est l'apôtre Paul qui dit, « Car il est notre paix, Jésus-Christ, lui qui de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez prêts et la paix à ceux qui étaient Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts. Voyez, il est notre paix. Et en quoi consiste son travail de paix? Il fait un pont. Et le pont, c'est la croix. Ainsi, cette séparation qui existait entre l'homme et Dieu, mais aussi entre nous, les hommes, il y a un pont qui est établi. Il est possible de se rejoindre. Il peut rendre possible la réconciliation. Jésus, donc, est celui qui a accompli la paix en permettant la réconciliation entre Dieu et les hommes, entre les hommes entre eux, en brisant le mur de la séparation. Il met fin ainsi à la guerre permanente entre les hommes. L'oasis dans le désert devient un autre lieu où l'on peut vivre pour toujours. Il devient possible de s'entendre entre les hommes. Il devient possible de vivre une vie où nous gérons, nous réussissons à dépasser nos conflits. La paix ne veut pas dire absence totale de problèmes. La paix veut dire capacité à se maintenir dans les bonnes conditions de vie, même quand il y a des conflits. À la croix, Jésus meurt. Et en mourant, il nous réconcilie avec Dieu et rend alors possible la paix. Et pourquoi est-ce que c'est seul Jésus qui peut le faire? Pourquoi c'est Jésus? Pourquoi est-ce que ça n'aurait pas pu être un autre homme de bonne volonté qui peut-être est un des meilleurs des hommes? Pourquoi c'est Jésus? La Bible dit que Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus est l'incarnation de Dieu. C'est Dieu fait homme. Il a pris la chair humaine pour accomplir le projet de Dieu. Il endure à la croix, non pas ses souffrances à lui, mais ce qui était nos souffrances à nous. À la croix, il prend nos fautes. Il prend sur lui nos fautes. Ce qui nous incombait en tant que pécheurs, lui, il les prend sur lui. Mais il n'est pas resté à la croix. Il est ressuscité. Et en ressuscitant, Dieu montre par là qu'il approuve son œuvre. Je ne vais pas être long. Peut-être que ce matin, peut-être que vous, toutes ces choses sont des réalités pour vous. Vous les connaissez, vous les entendez. Peut-être que pour vous, ça a un écho. Peut-être pas. Ce matin, à tous ceux qui ont déjà compris toutes ces choses, qui vivent dans cette dynamique, ça soit un rafraîchissement, un rappel pour savoir qui nous sommes et savoir aussi et rendre grâce à Dieu pour la paix qu'il nous donne. Mais peut-être que vous êtes là ce matin et peut-être que vous n'avez jamais entendu ça ou peut-être que ça vous est jamais venu en tête et jamais dans la réflexion personnelle. Ce matin, je vous invite à réfléchir. Vous êtes là peut-être ce matin en guerre avec vous-même, en guerre peut-être avec quelqu'un, en conflit avec quelqu'un. Vous avez peut-être le cœur rempli ce matin d'angoisse, des craintes, de peur de lendemain. Vous êtes peut-être inquiet pour tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Quel est le sort de notre monde? Et peut-être c'est le moment pour l'un ou l'autre de s'arrêter et de réfléchir. Peut-être je vous invite juste à fermer les yeux, comme ça chacun réfléchit pour sa part. juste que chacun réfléchisse et se donne le temps de se dire où est-ce que je suis avec ça. J'aimerais te poser la question à toi qui es peut-être en questionnement, à la recherche. Où est ta vie? Où en es-tu avec ta vie? Est-ce une vie merveilleuse? Est-ce que tu as envie d'être en paix avec toi-même? Est-ce que tu en as marre d'être en colère? En colère vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la vie que tu vis, vis-à-vis de ce qui se passe autour de toi, peut-être les rapports difficiles des gens de ta famille, etc. Est-ce que tu es en colère, en peine? Es-tu à la recherche de quelque chose de satisfaisant parce que tu es dans l'insatisfaction? Ce matin, je voudrais interpeller ton cœur et te demander de réfléchir. Jésus t'offre l'occasion de faire la paix avec toi-même. Jésus donne l'occasion de faire la paix avec Dieu. Puisque, plus que toute autre paix, la paix par excellence, celle qui nous permet de vivre en paix avec nous-mêmes et en paix avec les autres, c'est la paix que nous faisons avec Dieu. Cette paix est possible en Jésus-Christ. Alors je te demande, est-ce que tu as envie que tu ne sois pas là pour accompagner les gens? Regarder les gens heureux dans la vie et les accompagner. Est-ce que tu veux être là juste pour accompagner les gens ou tu veux toi aussi avoir ta part du bonheur dans la vie? Être heureux aussi dans ta vie. Alors, je t'invite à donner ta vie à Jésus. C'est ce que Jésus te demande. Il demande que pour que ça devienne une réalité, crois en lui. Croire, c'est-à-dire lui faire confiance. C'est-à-dire dire, voilà, je vais tenter le coup, je vais y aller avec lui. Je vais le faire. Je vais faire comme lui demande. Je vais suivre ses règles à lui. Donne-lui ton cœur et ta vie. Laisse-lui te changer, te transformer. Mes amis, la vie peut changer. Le cœur peut changer. Nous pouvons être transformés. C'est possible. Mais il faut que nous puissions croire. Croire en Jésus-Christ. Jésus dit que, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses, voici, sont devenues nouvelles. Alors, je ne sais pas où tu en es. Et ce matin, je vais juste faire une petite prière. Si tu fais partie des gens qui ont envie d'aller un peu plus loin avec le Seigneur, tu fais quoi à cette prière? Seigneur Jésus, j'aimerais trouver la paix. Et j'aimerais trouver la paix en toi. J'aimerais faire la paix avec toi. J'aimerais être en paix avec moi-même. Je comprends que c'est à la croix, quand tu es mort, que tu as permis la paix parce que là, tu as fait la réconciliation avec le Père. Fais que ça devienne une réalité pour moi. Fais que je vive de cette paix-là. Merci de prendre la direction de ma vie et de me conduire au nom de Jésus. Amen.